Il est 11h30 à FOMAG avec Jean-François Bodin.
Nouvelle discussion sur la Calédonie à Paris autour du président de la République le 16 janvier prochain. Les loyalistes posent leurs conditions. Relancer le tourisme, le gouvernement annonce un vaste plan de relance. Objectif, accueillir 250 000 touristes d'ici 2032. Le budget de la province non ajusté ce matin, il a été ramené à un peu plus de 45 milliards de francs en raison d'une baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie. En métropole, le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille sur fond de lutte contre le narcotrafic. Le chef de l'État annonce une augmentation de l'amende pour les usagers de produits stupéfiants. Toujours en métropole, Thomas Legrand et Patrick Cohen devant les députés de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité du service public la nuit prochaine. Les deux journalistes avaient été filmés à leur insu avec un cadre du Parti socialiste sur la stratégie adoptée pour faire perdre la droite à Paris. Et puis en sport, le conflit financier entre le PSG et Kylian Mbappé. Le club parisien a été condamné à verser 7 milliards de francs à son ancien attaquant vedette. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le calendrier politique ne connaît pas de trêve. Après l'abandon du projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens, Emmanuel Macron reprend l'initiative. Il invite les élus calédoniens le 16 janvier à Paris pour poursuivre le dialogue sur l'avenir institutionnel et pour apporter des clarifications sur l'accord de Bougival. Un point d'étape visant, selon Emmanuel Macron, à ouvrir de nouvelles perspectives politiques. Les loyalistes ont répondu au chef de l'État en posant à Elisabeth Noir leurs conditions sur les objectifs de cette rencontre.
Dans ce courrier au chef de l'État, les quatre élus loyalistes signataires de Bougival écrivent que les partisans du maintien de la Calédonie au sein de la République ont dû se battre âprement contre l'État et les forces indépendantistes afin de mettre en échec la félonie du projet d'Eva. Il rappelle que ce projet, soumis unilatéralement par Manuel Valls, actait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en contradiction totale avec la décision souveraine des Calédoniens de demeurer français. Les quatre élus loyalistes rappellent aussi que lors des discussions engagées le 2 juillet dernier à l'Élysée, ils se sont fermement opposés à la proposition visant à organiser un nouveau référendum à échéance de 15 ans. Ils affirment ensuite qu'à Bougival, ils ont fait le choix de la responsabilité et qu'ils ont accepté de nombreuses concessions pour permettre l'émergence d'un compromis politique équilibré et acceptable par tous. Les loyalistes rappellent aussi au président de la République qu'en juillet 2023, il a déclaré à Nouméa que la Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de le rester. Elle l'est aussi, écrivent-ils, parce que durant des mois, nous avons résisté aux attaques des indépendantistes et aux atermoiements de l'État qui ont mis en péril le maintien de la souveraineté française en Nouvelle-Calédonie.
Les quatre élus loyalistes tiennent donc à être parfaitement explicites et ils précisent les conditions qui sont pour eux non négociables pour participer à cette réunion du 16 janvier.
Si les échanges que vous proposez pour le 16 janvier prochain devaient avoir pour objet de revenir sur les équilibres politiques de l'accord de Bougival, alors les loyalistes n'y apporteront pas leur soutien, écrivent-ils. Ils ajoutent qu'ils n'apporteront pas davantage leur concours à des discussions qui aboutiraient à une nouvelle version du projet d'Eva ou à tout autre dispositif qui viendrait encourager la cause indépendantiste. Il est inacceptable pour nous, écrivent-ils, que les concessions déjà consenties soient considérées comme de simples étapes préludant à de nouvelles concessions, a fortiori lorsqu'elles s'inscrivent dans un climat de chantage à la violence exercé par des indépendantistes radicaux dont les reniements successifs de leurs paroles démontrent qu'ils ne peuvent être considérés comme des partenaires fiables. Dans ce courrier, les quatre élus loyalistes attirent enfin l'attention du président de la République sur les prochaines échéances électorales. Ils rappellent que si le calendrier de mise en œuvre de l'accord devait être remis en cause, les élections provinciales se tiendraient avec un corps électoral gelé et ils affirment qu'ils s'y opposeraient alors de toute leur force. Une lettre à Emmanuel Macron signée de Sonia Backès, Nicolas Metzdorf, Gilles Brial et Brieuc-Frogier.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Le gouvernement a-t-il raison, selon vous, d'abandonner le projet de loi sur la consultation des Calédoniens, faute d'une majorité au Parlement ? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a tort, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'un renforcement législatif des Nakamal permettra d'éviter les trafics de stupéfiants ou d'alcool constatés dans plusieurs de ces établissements. Ils sont 12% à être d'un avis contraire. Après plusieurs années de crise, la Nouvelle-Calédonie veut remettre le tourisme au cœur de son développement économique. Un vaste plan de relance a donc été présenté, avec pour objectif de faire du tourisme un moteur durable d'emploi, de croissance et de rayonnement, Léana Colombo.
Et ambition affichée pour 2032, accueillir au moins 250 000 touristes sur le territoire. Une année qui n'a pas été choisie par hasard, puisqu'en 2032, l'Australie accueillera les Jeux Olympiques à Brisbane. Un plan établi sur 7 ans et avec de nombreux chantiers à mettre en place. Pour y parvenir, la priorité sera de restaurer la confiance et l'image de la destination à l'international. Les efforts de promotion seront renforcés, notamment vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Les acteurs du tourisme proposent également de créer des offres vol plus hébergement, à l'image de ce que Fidji fait déjà. Un développement ambitieux mais réaliste, selon Christopher Gigès, membre du gouvernement chargé de l'économie et de l'attractivité, mais qui doit être structuré.
Il faut qu'on ait à la fois une image de marque de la Nouvelle-Calédonie qui soit renouvelée. Donc on l'a dit, on veut aller chercher du tourisme d'affaires, des touristes à haute valeur ajoutée. Donc on commence déjà par les compagnies aériennes, c'est-à-dire qu'il faut plus de place en Nouvelle-Calédonie. On veut conforter Air Calin, mais il faut d'autres compagnies qui viennent sur le territoire calédonien. Il faut qu'on accompagne les hôtels à la fois sur les rénovations, mais aussi sur des nouvelles chambres pour atteindre l'objectif à 2032 et notamment travailler avec des grands groupes internationaux. En plus, ça fera de l'investissement et des travaux en termes de relance économique, mais c'est toute cette partie promotion internationale ensemble et la vente de package ensemble et de promotion ensemble qui fera qu'on sera en capacité d'atteindre nos objectifs.
Pour mettre en œuvre ce plan de relance, il faut y consacrer un budget conséquent. Actuellement, 265 millions de francs sont accordés à la promotion internationale. 400 millions devraient l'être l'année prochaine pour atteindre 1 milliard d'ici 3 ans. En comparaison, la Polynésie française débourse déjà 1 milliard par an dans cette promotion. Parmi les investissements, le gouvernement entend relancer la construction et la rénovation hôtelière, soutenir les hébergements alternatifs et créer des zones franches touristiques pour attirer les investisseurs. Pour Philippe Edviller, président de l'Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie, les bases sont déjà posées.
On a les gens, on a nos employés qui sont déjà là, qui sont déjà formés, mais ils font former d'autres. Il faut faire une école d'excellence en tout cas pour ça et que tous les hôtels suivent à peu près les mêmes formations pour avoir un résultat global de chaque touriste qui soit pas dans un endroit et qui soit mal accueilli et bien accueilli ailleurs. Il faut, si on veut une destination, que ce soit une destination complète. C'est un peu prétentieux de dire qu'on veut du haut de gamme. Il y a des hôtels qu'il faut peut-être fabriquer en haut de gamme. Je trouve qu'on a déjà des très beaux hôtels. Il y a d'autres hôtels qu'il faut rénover, évidemment. Mais on a quand même ce qu'il faut.
Autre enjeu majeur, l'accessibilité aérienne. Le plan prévoit une politique tarifaire plus volontariste, l'arrivée de nouvelles compagnies et surtout le retour des vols charter vers le Japon dès 2026, à raison d'au moins un vol par mois. La compétitivité touristique au travers d'une stratégie aérienne est une des missions de la CCI qui s'occupe également du volet formation. Charles Roger, directeur général de la CCI.
Il y a un premier enjeu, c'est comment répondre aux attentes des compagnies aériennes, que ce soit Air Calin avec le développement de sa flotte. La 350 nécessite quelques adaptations sur l'aéroport qui sont en cours et qui seront bien mises en œuvre pour l'arrivée de l'avion. L'arrivée d'Air Cal à Tontuta, là aussi, nécessite l'évolution de nos équipements et de nos infrastructures et une coordination entre les opérations internationales et domestiques. Sur le volet accompagnement des porteurs de projets, on est là pour accompagner les prestataires touristiques, les gîtes. Et enfin, on est organisme de formation, à la fois en formation initiale avec nos CFA et notre école de gestion et de commerce. C'est comment monter des filières de formation qui répondent aux besoins des professionnels du secteur. Et puis en formation professionnelle continue pour former les salariés des hôtels, des restaurants et puis des prestataires touristiques.
Une nouvelle marque touristique sera prochainement créée pour remplacer Pacifique au cœur. Une consultation sera lancée auprès du public et des professionnels afin de choisir l'identité qui portera l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'international.
En bref, le retour à la normale sur les vols Air Cal se confirme. De nombreux vols ont été annulés depuis lundi. L'un des deux appareils en service est en effet tombé en panne et un troisième avion était en maintenance longue durée en Serbie. Cet avion doit revenir dans quelques heures sur le territoire. Il pourrait reprendre du service dans la foulée. Il est 11h39, une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.electeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Les Trois Brasseurs au 24 15 16. Retrouvez les suggestions spéciales Noël sur la page Facebook Les Trois Brasseurs.
La boutique Mango du Carré Saint-Hubert entre en liquidation totale et vous offre des remises de dingue sur toutes les collections avant sa fermeture définitive. Profitez-en, faites-vous plaisir pour les fêtes, tout doit disparaître. Retrouvez la boutique Mango au 12 rue de Sébastopol, centre-ville, parking gratuit.
Des prix bas plein la haute chez Bureau Vallée Magenta. L'imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 8125 recto verso est à moins 30%, soit 17 430 francs. Dépêchez-vous.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2025.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le dossier de la reprise de KNS et la SMSP attend une offre d'un groupe chinois, offre qui pourrait être faite dans les prochaines semaines, Nicolas Legrand.
Oui, plusieurs groupes avaient manifesté leur intérêt pour reprendre le site de Konyambo qui est à l'arrêt depuis 2024. Le groupe indien qui s'était positionné et qui était d'ailleurs venu sur le territoire ne va finalement pas donner suite à son projet de reprise. Et c'est donc le négociant chinois Lijun qui est le plus avancé dans les discussions, nous a dit Karl Terbi, le PDG de la SMSP, qui était notre invité ce matin à 7h30.
C'est le groupe qui fournit le plus de travail. Ils sont déjà venus mi-septembre avec une vingtaine d'ingénieurs et toute la partie direction pour rencontrer toutes les parties prenantes du territoire, le gouvernement, la province, le congrès, etc. Ils ont renvoyé encore une vingtaine d'ingénieurs spécialisés dans l'usine métallurgique et la centrale électrique il y a une quinzaine de jours. Là. On attend une offre pour la mi-février qui correspond à peu près au nouvel an chinois. On sait qu'ils travaillent beaucoup sur la possibilité de reprendre le process actuel avec quelques modifications et quelques adaptations, mais la décision n'est pas prise. Après, on leur fait confiance parce que c'est un acteur métallurgique, ils font que du nickel. En Indonésie, ils font plus de 400 000 tonnes de nickel à eux seuls, donc c'est quasiment 10% du marché. Techniquement, ce sont des gens très compétents. La première idée qu'on a, c'est effectivement que le départ de Glencore puisse être acté rapidement, qu'on ait, nous, SMSP, un peu d'argent en attendant que Lijun rentre officiellement et pouvoir déjà redémarrer la mine. Entre la remobilisation des gens, les réinvestissements qu'on a, etc., c'est 6 à 8 mois. Mais courant du deuxième semestre, on espère pouvoir relancer un peu d'emploi et de la mine sur Konyambo avant de pouvoir relancer la métallurgie.
Et avant l'arrivée d'un nouvel actionnaire, il faut maintenant acter et finaliser les conditions de départ de Glencore.
Glencore, sur ses conditions de départ, n'a pas vraiment évolué. Comme je l'ai dit plusieurs fois, même si les gens n'arrivent pas à le croire, la dette de 15 milliards, c'est plus un sujet entre nous.
Ça veut dire qu'elle est effacée ?
Elle sera soit transférée à SMSP qui pourra l'effacer, soit Glencore l'efface directement.
Donc c'est plus pour
Glencore,
vous, c'est
ne
pas
demande
un sujet.
Plus à être remboursé des 15 milliards, c'est pas un sujet. Le prix des actions, pareil, un dollar symbolique, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est dans quelles conditions se fait ce départ en termes de ce qu'on appelle de prix négatif. Pour ceux qui ont une référence, Valais à l'époque avait laissé une certaine somme d'argent sur la table pour aider à la suite. Ces discussions-là, c'est le cœur de nos négociations avec Glencore aujourd'hui.
Puisque la SMSP aura besoin de trésorerie pour gérer l'après Glencore, la société minière du Sud-Pacifique est endettée à hauteur de 23 milliards de francs. Sa filière mine est aussi en difficulté à travers la NMC qui affiche quant à elle une dette de 18 milliards de francs. Cette coentreprise détenue par la SMSP et POSCO était menacée de cessation de paiement à très court terme, mais le PDG de la SMSP s'est rendu en Corée la semaine dernière et a obtenu un soutien de la part de l'usine.
Aujourd'hui, ce qu'on a négocié, c'est une solution très transitoire. On va vivre à crédit sur notre activité. Donc, c'est-à-dire que les bateaux que NMC est censé charger et envoyer en Corée du Sud sur le premier semestre vont être payés dès aujourd'hui afin d'avoir suffisamment de trésorerie pour passer le mois de décembre et une grosse partie du mois de janvier jusqu'au 20 janvier à peu près. Mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution plus long terme et plus pérenne d'ici là.
Alors, quelles sont les solutions qui sont envisagées aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les syndicats qui avaient été reçus par le secrétaire général du Haut-Saraya, on leur a proposé un accompagnement technique. Donc effectivement, aujourd'hui, NMC, SMSP et POSCO, on travaille avec le CIRI, qui est le comité interministériel de restructuration industrielle, qui dépend de Bercy. On a déjà eu une première réunion avec eux sur laquelle on a établi ce système de paiement d'avance. Et aujourd'hui, on refait un tour accompagné par le CIRI de nos banques classiques avant d'ouvrir potentiellement vers d'autres banques pour voir si on est capable de se faire refinancer.
Et ce n'est donc qu'une bouffée d'oxygène qui reporte l'échéance d'une cessation de paiement à mi-janvier au lieu de mi-décembre. Il faut dire que la situation en Corée est aussi moins favorable que les années précédentes en raison de la crise du marché du nickel, mais aussi de la flambée des prix de l'électricité.
Notre filiale SNNC en Corée, très clairement, subit les effets de la guerre en Ukraine. On a un charbon qui a fait x4 et on a une énergie en Corée qui a été multipliée par plus de 2,5. Pour des sociétés électro-intensives, c'est extrêmement compliqué. Donc, quand on voit les performances, on était en bénéfice jusqu'en 2022 et depuis 2022, on perd effectivement un peu d'argent en Corée du Sud. Donc, c'est une période compliquée aussi.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de dividendes qui sont versés aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui, SMSP ne percevra pas de dividendes cette année ni l'année prochaine puisque SNNC a dû un peu s'endetter pour payer cette électricité plus chère. Et donc, le temps de rembourser les emprunts, ça décale un petit peu les dividendes. Je pense que de toute façon, dans le monde du nickel aujourd'hui, personne ne parle de dividendes. Malheureusement, on espère que le marché va vraiment démarrer avec le secteur des batteries électriques. Mais pour l'instant, c'est très, très compliqué pour tout le monde.
Et au cours de cette interview de Carl Terby, le PDG de la SMSP, qui était notre invité du matin à 7h30, il a aussi été question des discussions entre industriels calédoniens, alors que le Premier ministre a détaillé dernièrement le pacte de refondation économique avec un axe dédié au nickel. Sébastien Lecornu a manifesté son souhait de transformer la filière et de prendre les engagements nécessaires à son succès.
Les 22 élus de la province Nord réunis ce matin pour la dernière assemblée de province de l'année. 21 dossiers sont à l'ordre du jour. Parmi eux, Léo Fichou, des délibérations liées au fonctionnement de la collectivité et aux projets en cours, mais surtout la décision modificative numéro 4 du budget 2025.
Oui, la séance qui était prévue à 9h a débuté comme à l'accoutumée avec près d'une heure de retard. Les élus UCF-LNKS se sont fait attendre. Paul Néaoutin a ouvert la séance en rendant hommage aux 15 personnes qui ont perdu la vie en Australie durant l'événement tragique survenu à Bondi Beach. Ensuite, les élus se sont penchés sur la DM4, un budget impacté par une baisse des dotations versées par la Nouvelle-Calédonie, 560 millions de francs de moins que prévu, environ 511 millions en moins pour le fonctionnement, 50 millions pour l'équipement. Face à cette diminution des recettes, la province Nord a dû réajuster son budget pour rester à l'équilibre. Résultat, le budget global baisse de 295 millions de francs pour s'établir à 45,3 milliards de francs. Dans le détail, la section de fonctionnement qui couvre les dépenses du quotidien comme les salaires, les services à la population, mais aussi les subventions notamment, représente 31,4 milliards. La section investissement dédiée aux équipements, aux routes et aux bâtiments s'élève à 13,9 milliards. Pour absorber le choc, la province Nord a procédé à des réductions ciblées de dépenses, des réajustements de réserves financières et des réajustements comptables, sans pour autant remettre en cause les grandes politiques publiques. Cette décision modificative du budget numéro 4 a été adoptée à l'unanimité. On notera également parmi les autres points à l'ordre du jour les recommandations de la Chambre territoriale des comptes sur l'année 2023. Des recommandations auxquelles a réagi Wilfried Weiss, le maire de Koumac, qui a, je cite, « l'impression que rien n'avance ». Il s'inquiète pour l'offre de soins et souhaite qu'un schéma des urgences soit revu. Après plusieurs années, a-t-il dit, de laisser aller. Rappelons également que deux personnes sont décédées récemment devant les portes des urgences de Koumac. Fin de citation. Depuis l'Assemblée de la province Nord-Aconé, Léo Fichou, RRB.
Les conseils municipaux de Nouméa et du Mont-d'Or se réunissent eux ce soir. À Nouméa, les conseillers se retrouvent à 17h30 pour faire valider un certain nombre de délibérations que l'on pourrait qualifier d'affaires courantes. Au Mont-d'Or, c'est à 17h que les conseillers municipaux se retrouvent à Boulary. Une quinzaine de textes sont à l'ordre du jour, dont la décision modificative numéro 4 du budget principal de l'exercice 2025, mais aussi et surtout l'examen du budget primitif 2026 de la collectivité. La Chambre territoriale des comptes publie un avis budgétaire relatif à la commune de Marais. La commune doit une somme de plus de 35 millions de francs à la société Jean Lefèvre Pacifique pour des travaux de réfection de route qui remontent à 2023. C'est une dépense obligatoire et non acquittée au budget 2025 de la commune de Marais, précise la Chambre territoriale des comptes, qui a par ailleurs pu constater qu'à la suite du vote de la décision modificative numéro 2 du budget 2025 votée en octobre dernier, la commune avait ouvert suffisamment de lignes de crédit pour solder sa dette. Cet avis budgétaire a été rendu public par la CTC dans la mesure où il ne figurait pas à l'ordre du jour du dernier conseil municipal de Marais le 5 décembre dernier. Tous vigilants pour les fêtes de fin d'année. C'est le message porté par les acteurs de la prévention routière du territoire. La période de Noël et des fêtes de fin d'année est parfois l'occasion de boire un peu plus que d'habitude. Et malheureusement, les mauvais comportements sur la route ont tendance à refaire surface. Pour en parler ce midi, Léana Colombo, qui s'occupe de la rubrique sécurité routière sur Radio Rythme Bleu, nous recevons le lieutenant Bertrand, qui est officier adjoint sécurité des mobilités pour la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.
Lieutenant Bertrand, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Première question, pourquoi ou plutôt est-ce que la période des fêtes de fin d'année est particulièrement sensible en matière de sécurité routière ?
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, la période des fêtes est aussi l'occasion pour de nombreuses personnes de consommer un petit peu d'alcool à cette occasion. Et effectivement, il est important de rappeler que l'alcool n'est pas compatible avec la conduite.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler à partir de quand l'alcool devient dangereux au volant ?
Alors, l'alcool est dangereux, en tout cas, est répréhensible à partir d'un taux de 0,25 mg par litre d'air expiré. À compter de ce taux-là, vous êtes verbalisable.
Est-ce que beaucoup pensent qu'ils sont encore capables de boire alors qu'ils ne le sont pas ? Comment l'alcool fausse un petit peu la perception des réflexes ?
Oui, c'est vrai que certaines personnes boivent de l'alcool, se disent finalement ils peuvent continuer à prendre le volant. On fausse forcément ces appréciations de distance, de perception d'environnement, de vitesse. C'est pour ça qu'il est important de ne pas prendre le volant et éventuellement de définir une personne qui pourra prendre le volant à sa place dans ces circonstances.
C'est ce qu'on disait il y a quelques années, Sam, celui qui ne conduit, c'est celui qui ne boit pas.
Exactement, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ou à défaut, on reste chez ses amis, dans la famille, et on reprendra le volant le lendemain quand tout ira bien.
Est-ce que les contrôles, vous en tant que gendarme, est-ce que vous allez effectuer plus de contrôles pendant ces périodes ?
Alors, plus de contrôle, non. Une vigilance accrue sur les conduites addictives, oui. Parce qu'on sait que cette période est propice à la consommation d'alcool, à la consommation de produits stupéfiants également. Ce sont des causes principales de mortalité sur nos routes. Donc oui, on sera vigilant et oui, on sera présent comme toujours.
On parle beaucoup d'alcool, mais il y a aussi la fatigue qui rentre en jeu. On sait que souvent, c'est le genre de soirée où on rentre tard le soir.
Oui, effectivement, vous avez raison de le rappeler, la consommation d'alcool n'est pas forcément le principal risque. La somnolence arrive aussi régulièrement et on peut faire une sortie de route et avoir des conséquences dramatiques.
Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer aux Calédoniens qui écoutent, qui vont sûrement sortir à l'occasion de ces réveillons ?
Eh bien, comme on l'a dit, prévoyez un SAM pour conduire après la fête. Et puis, dans la mesure du possible, restez chez vos amis, restez en famille, évitez de prendre le volant si vous avez consommé de l'alcool. Ça sera le meilleur message.
Lieutenant Bertrand, vous êtes aussi donc en charge de la sécurité routière. Est-ce qu'on peut faire un pré-bilan, même si là, l'année 2025 n'est pas terminée, est-ce qu'on peut faire un premier bilan de la mortalité sur les routes, sachant qu'en 2024, ce n'est pas une année de référence, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. On prendra l'année 2023 comme année de référence. Hein. Vous savez les raisons pour lesquelles 2024 ne l'est pas. Et donc, comparé à 2023, nous sommes actuellement à une trentaine de morts sur la zone gendarmerie, sur nos routes, ce qui représente environ une baisse d'une trentaine de 30% par rapport à 2023.
Donc on peut se féliciter de ce chiffre, même si c'est jamais complètement satisfaisant, j'imagine ?
Tout à fait, c'est une baisse. Donc forcément, l'action de la gendarmerie, les actions de prévention sont notées et ont une incidence sur la mortalité. Donc ce sont des chiffres qui sont corrects.
Avec très souvent l'alcool comme facteur aggravant dans ces accidents ?
Bien évidemment, l'alcool et les stupéfiants sont présents dans plus de 50% des accidents, mais sans oublier la vitesse excessive et les distracteurs de conduite, c'est-à-dire le téléphone portable.
Lieutenant Bertrand, officier adjoint sécurité des mobilités pour la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été avec nous ce midi.
Merci.
Et merci Léana. Voilà, au cœur de Noël, vous l'avez entendu, la petite musique est partie un petit peu vite pour parler de cette opération qui est entrée dans sa dernière semaine. Hein. Maintenant, vous êtes formidables parce que vous venez très très nombreux à la radio chaque jour déposer des cadeaux, toujours avec beaucoup de gentillesse. Des cadeaux, vous le savez, qui sont destinés aux familles et aux enfants des familles en difficulté. Il y a Paul qui est passé, par exemple, ce matin, lui aussi les bras chargés de cadeaux.
Il y a beaucoup qui n'ont pas de quoi fêter Noël, de quoi réjouir leurs enfants, de quoi donner de la joie, de la féerie autour du sapin de Noël. C'est pour ça que je viens. C'est une fête familiale et les enfants sont contents de recevoir. Parce que quand on fait un don, il faut distinguer celui qui donne, il est content de donner, et celui qui reçoit, il est content aussi de recevoir. Et j'encourage tous les gens à venir à RRB pour donner les cadeaux.
Voilà, comme Paul, vous êtes nombreux à passer à Radio Rythme Bleu pour déposer vos cadeaux ou le faire aussi au magasin Petit Dôme, route de Lanzvata. Merci à tous. La collecte se poursuit encore. Il y a des besoins, évidemment, pour que Noël soit une fête pour tous. Collecte qui se poursuit jusqu'à samedi. On vous attend à la radio. L'actualité dans la région avec les suites de la tuerie de Bondi Beach contre la communauté juive australienne qui fêtait Hanouka. Le bilan fait toujours état de 15 morts et 40 blessés et on en sait un peu plus sur les deux tireurs, un père et son fils. Les deux hommes se sont rendus du 1er au 28 novembre dernier aux Philippines sur l'île de Mindanao où se trouve un foyer de combattants affiliés à l'État islamique. Daesh serait donc derrière cet attentat, a confirmé le Premier ministre australien Anthony Albanese.
Il semblerait qu'il existe des preuves indiquant que cet acte ait été inspiré par Daesh. Une partie de cette radicalisation, cette perversion de l'islam est absolument problématique.
Rappelons que lors de leur interpellation, le père a été tué par les forces de l'ordre et son fils blessé est toujours hospitalisé. 11h56, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole dans un petit instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Décompressez au Phare Amédée avec le Maridé. Si loin, mais si près, téléphone 26 31 31, réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Vivez au rythme de Noël avec la ville de Nouméa.
Jusqu'au 23 décembre, un spectacle quotidien au kiosque à musique et un marché de Noël artisanal Place de la Marne, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, feront vibrer petits et grands.
Le 24 décembre, le Père Noël arrivera à bord de son traditionnel char pour récupérer les clés de la ville des mains du maire.
Et jusqu'au 30 décembre, la fête de la lumière fera briller la place des Cocotiers tous les soirs de 19h à 23h.
Retrouvez le programme complet des animations sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la magie de Noël.
Pour les fêtes, profitez des offres chez Nespresso, là où la magie commence. Pour l'achat d'une machine Nespresso, recevez jusqu'à 200 capsules offertes. Nespresso, what else? À découvrir dans votre boutique Nespresso Nouvelle-Calédonie ou sur Nespresso.nc. What else, quoi d'autre? Offre soumise à condition, disponible en boutique.
Prêt pour un Noël complètement waouh ! Cette année, votre Auchan Auteuil réunit tous les ingrédients pour un Noël réussi. Des prix promo canon, une grande sélection de cadeaux, de la déco féerique, de l'épicerie gourmande et un espace boucherie traditionnel qui se coupe en quatre pour vous faire plaisir. Il n'y a plus qu'à passer commande, rendez-vous vite dans votre Auchan Auteuil.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec Emmanuel Macron à Marseille, le chef de l'État a profité de ce déplacement pour évoquer évidemment la lutte contre le narcotrafic et il a fait une annonce. Elle concerne les consommateurs. L'amende forfaitaire pour les usagers de stupéfiants sera portée de 200 à 500 euros, c'est-à-dire 60 000 francs.
Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic. Rien de tout ça n'arriverait s'il n'y avait pas des gens qui gentiment achète de la cocaïne, du hash, on va le passer à 500 euros l'amende. 500 euros, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue.
Une décision plus symbolique que réellement efficace, estiment plusieurs acteurs du dossier. C'est le cas de cet éducateur marseillais militant contre le narcotrafic.
C'est un pansement sur une jambe de bois, 500 euros d'amende forfaitaire délictuelle. C'est sûr pour le consommateur qui sort de son lieu de travail et que lui est solvable, ça va lui faire mal. Mais un jeune, qu'est-ce qu'il en a à foutre d'une amende de 500 euros de... Parce qu'il n'est pas solvable, il ne la payera pas l'amende.
À l'heure actuelle, le taux de recouvrement de ces amendes pour consommation de drogue est faible. Trois quarts d'entre elles restent impayées. La commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public poursuit ses travaux et ses auditions. Et la nuit prochaine, elle devrait entendre Thomas Legrand et Patrick Cohen. Dans une vidéo prise à leur insu, on voit les deux journalistes du service public discuter en septembre dernier avec un cadre du Parti Socialiste sur la stratégie adoptée pour faire perdre la droite à Paris. Et les deux journalistes prépareraient leur audition avec l'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch, Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Selon les informations d'Europe 1, Laurence Bloch semble coordonner les prises de parole des deux hommes avant leur audition. Elle donne des conseils à Thomas Legrand. J'ai eu Patrick Cohen au téléphone. Laisse-le s'attaquer à l'extrême droite. Toi, n'y va pas, conseille-t-elle. Insiste plutôt sur l'instrumentalisation. Et surtout, souviens-toi, le plus important, c'est de défendre la maison, insiste l'ancienne directrice de France Inter. Quand arrive sur la table le sujet de la vidéo publiée par le média L'Incorrect, Thomas Legrand se montre fébrile et évoque une vidéo embarrassante pour lui. Première crainte, le moment où il qualifie les auditeurs de France Inter de bobos parisiens qu'il prétend convaincre de voter à gauche. C'est le plus chaud pour moi car je reconnais qu'il existe un entre-soi parisien, assure le journaliste. Deuxième crainte, sa phrase sur Rachida Dati. Il reconnaît alors une maladresse, un terme que Laurence Bloch lui déconseille fortement d'utiliser en audition. Surtout, elle condamne fermement ses propos sur le fond. Quand je t'entends dire « Dati, on s'en occupe, désolé, mais moi, en tant que citoyenne, ça me choque ». Interrogé par Europe 1, Thomas Legrand reconnaît à demi-mot avoir reçu cette critique, contraire à la justification apportée par le journaliste en septembre dernier, disant à l'époque vouloir défendre sa profession. Pourtant, Laurence Bloch lui a bel et bien dit « ce n'est pas le boulot d'un journaliste ».
Toujours en métropole, les agriculteurs restent mobilisés dans le sud-ouest. Ils protestent toujours contre l'abattage systématique d'un troupeau en cas de détection de dermatose bovine sur l'une des têtes de bétail et ils entendent poursuivre leur mobilisation.
L'abattage partiel, il a été quand même démontré que ça tient la route, qu'on pourrait le mettre en place. C'est juste que derrière, il faut, et on est tous prêts à le faire, il faut faire très attention, confiner, mettre des mesures de sécurité, traiter, soigner les bêtes, les mettre à part celles qui sont positives malheureusement. Et puis, ce qui se prépare, c'est de ne pas lâcher tant qu'on n'aura pas une réponse favorable. Voilà.
Les agriculteurs bloquent plusieurs autoroutes maintenant, mais aussi des routes nationales dans le sud-ouest, ainsi qu'une voie ferrée. La décision de la Commission européenne risque de faire beaucoup parler. Elle a décidé d'assouplir l'interdiction de vente de véhicules thermiques et hybrides, interdiction qui devait entrer en vigueur en 2035. Finalement, ces véhicules pourront être vendus en nombre limité au-delà de 2035. Une décision de bon sens, explique Jean-Michel Pinto. Il est spécialiste de l'industrie automobile au cabinet Roland Berger.
L'industrie dit on va pas y arriver. La croissance électrique, elle va moins vite que prévu. 2035, ça devenait un objectif théorique et donc il fallait avoir une discussion sur comment on le fait évoluer. L'industrie automobile, elle a un problème de compétitivité coût. Il faut arriver à produire en Europe des véhicules électriques à un coût compétitif et il faut effectivement encourager leur adoption.
Oui, la décision d'interdire la vente de véhicules thermiques et hybrides en 2035 aurait causé la destruction de 80 000 emplois dans les pays de l'Union européenne. À midi 2, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive et notamment ce bras de fer juridique entre le PSG et son ancien attaquant Kylian Mbappé.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vos moments festifs, pétillants, généreux et pleins de partage, la Maison Ballande vous propose une large sélection d'épiceries fines, de chocolats, de douceurs artisanales, boissons pour toutes les envies, dont une belle sélection 0%, ainsi que des coffrets gourmands prêts à offrir ou à confectionner vous-même, pour un cadeau unique et personnalisé. À retrouver toute l'année, Baie de l'Orphelinat au rond-point de l'Ancre de Marine.
Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, parois de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Pour Noël, offrez des cadeaux prestigieux à petit prix. Bébé, Bonobo, Cache-Cache, Camailleux, Jennifer, Naf Naf, Surcana, Victoria's Secret, des sacs Michael Kors et Guess. Séché, Factory Store, à Nouméa, 344 rue Armand-Hollène ou au centre du village à Conné. Trouvez-nous facilement sur Google Maps, Factory Store NC.
Envie de voyager pour profiter de vacances bien méritées ? Du 8 au 31 décembre 2025, tentez de gagner deux billets d'avion aller-retour pour Paris ou l'un des 10 lots de 50 000 points Air Calin mis en jeu. Chaque achat de 50 000 francs minimum réalisé avec votre carte Air Calin Amex à l'agence Air Calin ou sur www.aircalin.nc représente une chance de gagner.
Concrétisez vite votre envie de voyage et laissez la chance embarquer avec vous.
Je soumis à condition plus d'informations sur www.ofina.nc.
Mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Rouf, info 25 07 00 et retrouvez le menu spécial Noël sur la page Facebook Le Rouf.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Alors le sport, c'est du football dans les prétoires pour commencer. Lionel Sabot, cette nuit pour nous, le Paris Saint-Germain a en effet été condamné à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé.
Oui, alors juste histoire de planter le décor, de se faire un peu mal, 61 millions d'euros, c'est un peu plus de 7 milliards de francs pacifiques, soit grosso modo la moitié du budget primitif 2026 de la commune du Mont d'Or qui sera examinée ce soir. Vous en parliez il y a quelques instants. Le Paris Saint-Germain a pris acte de cette décision du Conseil des Prud'hommes de Paris et se réserve le droit de faire appel. Le club de la capitale va devoir payer 55 millions d'euros de salaire des primes impayées par le club aux joueurs à leur séparation tumultueuse à l'été 2024, mais aussi 6 millions d'euros de plus correspondant aux congés payés. Bah oui, le Conseil des Prud'hommes de Paris a également condamné le club d'informer ses fans de la décision en première page de son site internet pendant un mois. Et si la somme de 61 millions d'euros vous paraît astronomique, sachez quand même que dans cette affaire, les avocats de l'attaquant du Real Madrid réclamaient 263 millions d'euros pour leur client. Le PSG demandait lui 440 millions d'euros à son ancien joueur pour préjudice à l'image, perte de chance pour transfert de joueurs ou mauvaise foi dans l'exécution d'un accord. On hallucine. Le Paris Saint-Germain sera demain au Qatar pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale. Ça, c'est du football du vrai. Sur les pelouses, les Parisiens affronteront les Brésiliens de Flamengo.
Le football sur les pelouses, toujours du côté féminin, avec à suivre demain matin pour nous la 6e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions féminine. Tous les matchs se joueront à 7h, heure de Nouméa. Lyon recevra l'Atlético Madrid. Le Paris FC accueillera le FC Barcelone. Et le Paris Saint-Germain sera en déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Et puis on termine avec un mot de basket aux États-Unis. À partir de 12h30, ce sera le début de la finale de la NBA Cup.
Oui, la NBA Cup qui est une nouvelle compétition dans le grand monde du basket US. Elle a été créée en 2023. Les Los Angeles Lakers ont été les tout premiers à soulever le trophée. À partir de 12h30, la finale de l'édition 2025 verra une confrontation entre les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama et les Knicks de New York. La rencontre se jouera à la T-Mobile Arena de Las Vegas.
Midi et 6 minutes, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera 13h juste à la fin d'Infomag pour le rappel des principaux titres de l'actualité. D'ici là, vous êtes bien sûr accompagné par Thierry. Bon après-midi à tous.